Monsieur le Président, Madame la Doyenne, Madame la Vice-Doyenne, Mesdames et Messieurs les magistrats et les membres du barreau, chers collègues, chers étudiants, chers amis, cher professeur Van Ommeslag, nous sommes réunis aujourd'hui pour une conférence Perelman exceptionnelle intitulée « À propos du droit des obligations, perspectives et avenir », conférence du professeur Van Ommeslag à l'occasion de la publication de son ouvrage sur le droit des obligations. Je passe sans tarder la parole à notre président.
Cher monsieur Van Ommeslag, je n'ose dire cher Pierre, tant votre personnalité m'a toujours impressionné, inhibant toute approche plus informelle. D'autant que réciproquement, votre exquise courtoisie n'avait de cesse de m'affubler systématiquement des titres variés des fonctions que j'exerçais. L'intérêt par ailleurs discutable de ces titres est néanmoins de me permettre aujourd'hui de vous adresser quelques mots, avec évidemment le vouvoiement qui sied à la circonstance. Je vous ai rencontré pour la première fois en 1982. Vous veniez d'accepter la présidence de la Fondation Erasme, aujourd'hui le Fonds Erasme. Ce n'est pas l'éminent spécialiste du droit des affaires que nous recherchions, mais plutôt la personnalité réputée et reconnue pour son intégrité et sa rigueur intellectuelle et morale, des qualités qui nous semblaient indispensables pour attirer d'abord et rassurer ensuite les hautes sphères socio-économiques de notre pays que nous n'allions pas manquer de solliciter. Faut-il le dire, le succès fut total. Le Fonds Erasme, que préside aujourd'hui après vous Paul-Alain Fourier, a contribué par le mécénat un investissement en faveur de la recherche médicale de plus de 20 millions d'euros. Même si c'est un peu hors du sujet, je ne peux m'empêcher de saisir l'occasion de vous dire merci pour cela aussi. Rappelez maintenant tout ce que contient votre curriculum vitae avec ses plus de 150 communications et tout autant de publications priverait l'auditoire du temps nécessaire à entendre votre conférence. Je n'aurai donc pas cette incongruité, d'autant que de plus compétents que moi souligneront l'originalité et l'importance de votre contribution à la doctrine juridique. Je me contenterai de souligner quelques aspects peut-être plus anecdotiques. En 1948, pour s'inscrire à la faculté de droit, il fallait un diplôme du secondaire en section latin-grec. Vous aviez choisi la section latin-mathématique. Un bon choix, je le précise. Mais vous avez dû, et vous l'avez fait, sans hésiter, présenter et réussir l'examen de grec au jury central. C'est ainsi qu'on vous retrouvera à l'ULB, en 1953, diplômé docteur en droit avec la plus grande distinction, et en 1954, un an plus tard, licencié en sciences économiques et financières avec grande distinction, sans parler du prix René Marc de la faculté. Vous mènerez ensuite une double carrière, académique d'une part et professionnelle d'autre part, mais bien évidemment, ces carrières se sont nourries mutuellement, pour le plus grand bénéfice de notre université, de nos étudiants, et sans doute aussi de vos clients. Vous avez été notre grand professeur du droit commercial, du droit privé, du droit civil, du droit des obligations, et vous avez aussi porté la bonne parole dans d'autres institutions universitaires, notamment à Genève, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, à Gand, dans le cadre de la chaire Franqui, à la Commission européenne de Luxembourg, à Barcelone, à Bologne, à Essex, à Lyon 3, à Constance, à Nimègue, et bien d'autres. Vous communiquez énormément. Est-ce que parce que vous fûtes rapporteur à Gand sur le droit d'action des groupements pour la défense de l'environnement que vous avez décidé de recycler? Mais en tout cas, vous recyclez beaucoup. Vous recyclez des avocats à la tribune du jeune barreau, des magistrats à la cour d'appel de Gand, des réviseurs, des juges consulaires, des juristes d'entreprise, des patrons, des banquiers sur le droit des faillites, des experts comptables, des fiscalistes, des assureurs, des administrateurs publics, des actionnaires minoritaires, etc. Vous recyclez tout le monde. Du côté de la profession, avocat près de la Cour de cassation, vous avez été bâtonnier de l'ordre de ces avocats. Expert reconnu, vous avez été régulièrement sollicité par ce qu'on appelait la CEE, la Commission économique européenne, et les gouvernements belges et luxembourgeois. Ainsi, vous avez négocié avec la CE, pour le compte de l'État belge, les directives d'application de l'article 54, paragraphe 3, littéra G du traité de Rome. Surtout que personne ne m'interroge sur son contenu. Je serais incapable de le préciser. Je suis d'ailleurs fasciné par les questions auxquelles vous avez répondu. La clientèle d'un dentiste constitue-t-elle une valeur patrimoniale? Quelle est l'étendue de l'exception non ad impleti contractus en cas de faillite du débiteur? Ou encore, le fraus omnia corruptit est-il un principe général de droit? À vrai dire, mon intérêt personnel porte plutôt sur votre contribution, et je cite, à la notion de l'organe statutaire et à la répartition des pouvoirs par le conseil d'administration, un sujet à la mode à l'ULB, tout au moins pour le moment. J'aurai encore bien des choses à dire. J'épingle au passage votre présidence du Royal Leopold Club, que vous devez certainement à d'autres talents que ceux du prétoire, mais je terminerai par un souvenir personnel. À l'époque, jeune recteur, je veux dire jeune dans la fonction, l'idée insolite m'était venue d'interroger les facultés sur la cohérence de leur enseignement. Ainsi, devant le conseil de la faculté de droit, et vous étiez présent, je m'interrogeais sur le paradoxe d'une faculté qui, après avoir proclamé la réussite de nombreux étudiants à l'issue de ce qu'on appelait à l'époque les candidatures en droit, ne s'étonnait pas de l'échec de 40% d'entre eux à l'issue de la première licence. Tous vos collègues, l'air gêné, regardaient la pointe de leurs chaussures, tandis que vous m'adressiez un clin d'œil avec un large sourire. Il est vrai que vous avez terrorisé des milliers et des milliers de nos étudiants, quoique les juristes diplômés de notre université que j'ai pu interroger m'ont expliqué qu'il s'agissait là d'une légende. Je reconnais cependant le biais méthodologique de mon enquête. Ils avaient, puisqu'ils étaient diplômés, nécessairement tous réussi votre examen, la plupart d'ailleurs avec brio. Il n'empêche, quoi qu'ils en disent, ils doivent frémir a posteriori, car nous honorons aujourd'hui l'édition chez Breuland de votre droit des obligations. Il fait 3 tomes et 2500 pages. Et pour les étudiants, c'est une matière d'examen. Pas moins. Cher monsieur Van Hommerslach, bravo et chapeau bas.
Merci monsieur le président, mesdames et messieurs, monsieur le professeur Van Hommerslach. Je n'imaginais pas le jour où je suis entré dans le local H3302, au fond du couloir dont je tairai le nom, pour m'entretenir avec vous de la force majeure et de la responsabilité civile de l'employeur, où était-ce un Premier ministre qui, forçant son chauffeur à rouler toujours plus vite, provoque un accident. Bien sûr, je ne savais pas, au moment de franchir la porte du local H3302, que j'aurais à vous parler de ces sujets précis. Mais surtout, disais-je, je n'imaginais pas un seul instant que je revivrais ce moment d'intense émotion un quart de siècle plus tard, en cette présente occasion. Monsieur le professeur Van Hommerslach, grâce à l'excellente initiative de nos collègues Xavier Dieu et Benoît Friedman, j'ai aujourd'hui le privilège de pouvoir très chaleureusement vous remercier au nom de toute la faculté de droit et de criminologie pour tout ce que vous lui avez apporté, pour tout ce que vous nous avez apporté, depuis que vous y êtes devenu enseignant, voici maintenant 50 ans. Vous y avez dispensé les cours de droit commercial comparé, de droit privé approfondi, de droit commercial approfondi, et surtout, bien sûr, le cours de droit des obligations, ce patrimoine commun à tous les juristes, que vous avez considérablement enrichi par vos publications, avec, en guise de somme très attendue, la parution récente chez Breuland, des 3 forts volumes, forts dans tous les sens du terme, sobrement intitulés « Droit des obligations ». Parmi toutes vos exceptionnelles qualités, sur lesquelles mes collègues reviendront certainement, j'en retiendrai 2. Votre élégance et votre insatiable curiosité. L'élégance de l'allure, ceci se passe de commentaires, même si il me faut vous l'avouer. Vos étudiantes, mais aussi vos étudiants, attendaient toujours avec impatience de vous voir arriver en cours pour, avant de s'initier aux joies de la théorie de l'équivalence des conditions ou de l'abus de droit, savoir quelle combinaison, toujours réussie, vous aviez choisi entre le coloris de la chemise, les rayures du costume et les teintes de la cravate. Mais je veux parler surtout de l'élégance du raisonnement juridique. Dans vos publications, les opinions adverses sont toujours finement, méthodiquement démontées. La critique est implacable, jamais désobligeante. Puis arrive la démonstration de votre thèse, qui semble se dérouler naturellement, suivant le fil d'une rigueur intellectuelle dont vous ne vous départissez jamais, qui est dynamisée par la force de conviction du plaideur, illustrant toujours son propos d'exemples concrets tirés de la pratique dont il n'ignore pas les contraintes. Monsieur le professeur Van Homeslag, vous êtes aussi un insatiable curieux. Cette curiosité, sans conteste un des secrets du bonheur, vous pousse toujours à regarder plus loin, et pour cela à créer des ponts entre les générations, entre l'enseignement et la pratique, entre le nord et le sud du pays. Combien de fois n'avez-vous pas hardiment franchi la frontière linguistique pour faire des conférences ou donner des cours à Gand, où vous avez occupé la prestigieuse chaire Francky, mais aussi à Courtrai ou Anvers, par exemple. Entre le droit civil et le droit commercial, entre le droit des obligations et le droit de la consommation, que facétieux, vous vous plaisez avec une belle constance à dénommer consumérisme. Vous avez appelé aussi à créer des ponts entre le droit privé et le droit public. Ou plutôt, selon vos propres mots, je cite, à transformer ce no man's land en élégant jardin à la française plutôt que de le laisser se développer comme un marécage bourbeux. Fin de citation. Dans ce domaine, le chantier est toujours en cours. Permettez-moi de penser qu'il est en bonne voie et qu'il est aujourd'hui symbolisé au sein de notre faculté par la collaboration fructueuse entre une doyenne, Anne Michaux, venant des terres fertiles du droit public, et une vice-doyenne privatiste, puisque nous avons toutes les deux le plaisir d'y jardiner ensemble depuis quelques semaines. Monsieur le professeur Van Homeslag, professeur émérite depuis 2003, vous n'avez pas cessé de travailler, non seulement au barreau, mais aussi à l'université, avec laquelle vous n'avez jamais rompu vos liens, et où nous avons la chance de pouvoir régulièrement venir vous écouter, dans quelques instants bien sûr, mais déjà aussi la semaine prochaine, lors du colloque sur le droit des obligations dans les jurisprudences belges et françaises. Je tiens à la disposition des personnes intéressées quelques dépliants pour s'inscrire si vous le souhaitez. Ou bien encore en avril 2011, lors des conférences UBCube, organisées conjointement par la faculté et le barreau de Bruxelles, que vous dirigerez sur le thème « Droit des nouvelles technologies et droit des obligations ». Pour cette élégance, pour cette insatiable curiosité et pour bien des choses encore, la doyenne et moi-même et tous les membres de la faculté vous devons la plus grande gratitude.
Cher professeur Van Homeslag, à mon tour, la conférence Perelman honore chaque année un orateur pour sa contribution à la réflexion et à l'action dans le domaine du droit et de la justice. C'est peu dire que vous avez contribué à la science et à la pratique du droit. Vous êtes une figure hors norme de notre monde académique et du monde juridique. Votre apport et votre influence sont immenses dans l'enseignement du droit, dans le développement de la doctrine et dans la pratique. C'est pourquoi nous vous sommes très reconnaissants d'avoir accepté de donner cette année la conférence Perelman, une conférence exceptionnelle, à l'occasion de la parution de votre ouvrage tant attendu sur le droit des obligations. Cet ouvrage constitue, comme vous le dites dans le livre, le prolongement et l'aboutissement d'un enseignement de plus de 30 ans du cours de droit des obligations à la faculté de droit de l'ULB que vous avez marqué à jamais de votre empreinte et qui vous rend hommage aujourd'hui. Pour les étudiants qui sont ici, et on y a déjà fait allusion, il faut que vous sachiez que tous ceux qui sont vos professeurs aujourd'hui, du moins ceux qui ont fait leurs études à l'ULB, ont tous été formés par le professeur Van Hommeslag, son cours et son examen, effectivement, Monsieur le Président, sont légendaires. Et c'est vrai qu'ils se déroulaient au bout d'un couloir dont j'oserais peut-être, pour le profit des étudiants, quand même nommer le fameux couloir de la mort, qui se visite encore dans le bâtiment H. Et je dirais à propos de cet examen, qui par ailleurs, sur le plan de sa forme, de son contenu, était en fait un examen tout à fait normal à la faculté de droit, mais qui apparaissait, à juste titre me semble-t-il, à nous autres étudiants, comme une épreuve initiatique plus qu'un examen, qui permettait à ceux qui le passaient avec succès de pouvoir légitimement se dire qu'ils feraient bientôt qu'il serait bientôt membre de la communauté des juristes. Mais donc, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas de la rigueur et de l'exigence du professeur Van Hommeslag, ni de la haute idée qu'il se fait de la mission de professeur, mais de sa méthode. Car Pierre Van Hommeslag demeure pour moi et pour beaucoup d'autres qui avons été ses étudiants, ses assistants, ses collaborateurs au barreau, notre maître en droit et en pragmatisme. L'approche pragmatique du droit constitue depuis longtemps l'identité et la marque de fabrique de la formation des juristes à l'ULB et, j'ajouterai, le gage de sa qualité. Le pragmatisme a tourné le dos à une conception du droit abstraite qui voit celui-ci comme un ensemble de règles qui se déduiraient logiquement les unes des autres ou comme une collection de textes qui se suffiraient à eux-mêmes. À l'inverse, le pragmatique considère que la règle de droit ne prend sens et vie qu'à la faveur de ses applications, spécialement jurisprudentielles, et des effets qu'elle produit. Le pragmatique envisage le droit non pas comme un concept philosophique, mais comme un instrument, un outil qui permette aux juristes de résoudre les problèmes dont ils ont la charge. Cette méthode pragmatique s'est progressivement imposée à toutes les disciplines à l'ULB et inspire encore la majorité de nos enseignements et de nos recherches, mais c'est en droit civil qu'elle a fait son apparition avec en particulier Henri Depage dans le sillage de l'école de la libre recherche scientifique, Henri Depage dont vous avez été l'élève. Elle s'est prolongée en droit commercial avec Jean Van Rijn et elle a atteint avec le professeur Van Hommeslag toute la force de sa maturité. La méthode pragmatique a toujours imprégné votre enseignement, cher professeur Van Hommeslag, tant au niveau de la forme de celui-ci que du contenu. Sur la forme, par l'idée qui vous est cher, de compléter le cours ex cathedra de droits des obligations par des travaux pratiques, nous les pratiquons encore de cette manière-là, qui ne consistent pas en une répétition du cours, mais qui confrontent les étudiants à des cas concrets, et aussi compléter ce cours ex cathedra par les fameuses questions approfondies de droit privé, ou plus tard de droit commercial, où le professeur lui-même, devant un nombre réduit d'étudiants, bien guide ses étudiants dans l'exposé, la discussion et la solution des cas pratiques. Quant au contenu de votre enseignement, qui est parfaitement reflété dans l'ouvrage dont nous célébrons aujourd'hui la publication, la règle de droit n'y est jamais envisagée de manière abstraite, théorique ou purement historique, mais toujours comme partie du droit vivant dans la perspective de ses applications actuelles ou même potentielles, les controverses y étant traitées, comme l'a indiqué la vice-doyenne, avec une clarté et un tranchant qui constituent proprement le style Van Hommeslag. Vous exprimez d'ailleurs clairement votre préoccupation pragmatique dès le début de votre livre, et je ne peux mieux faire que vous citer. « Notre objectif, écrivez-vous, est d'offrir aux étudiants et aux praticiens d'abord, mais aussi à tous les juristes, une réponse aussi concrète, utile et pragmatique que possible aux questions qu'ils rencontrent lors de la solution de problèmes juridiques relevant de notre discipline. » Et vous ajoutez, « Notre ambition serait comblée si notre ouvrage pouvait trouver place sur la table de travail des différents utilisateurs du droit des obligations, à portée de main pour être fréquemment consulté et s'il les aidait ainsi à répondre à leurs interrogations. » Nul doute, cher professeur, que c'est déjà le cas, et nous en recevons de multiples témoignages, notamment de la part des étudiants ce matin même, à l'interruption du cours de première BA, des étudiants très débutants, une étudiante est venue m'interpeller en disant qu'elle avait reçu au TP une question de droit de la responsabilité et me demandant si elle, je lui conseillais, si c'était une bonne idée, ce qu'elle avait pensé faire d'ailleurs elle-même tout seule, de consulter votre ouvrage de droit des obligations. Je l'ai vivement encouragé à le faire, bien entendu. Et donc, on voit que dès la première année, aujourd'hui encore, bien, les étudiants sont déjà bien avertis de l'existence de ce livre. Je conclus. Si le pragmatisme des juristes les a détournés d'une certaine conception métaphysique du droit, exagérément abstraite et théorique, il a cependant influencé en retour le cours de l'histoire de la philosophie, qui a connu ce que les spécialistes appellent au XXe siècle un véritable tournant pragmatique. Ce tournant, il a été négocié à plusieurs endroits, dans la rencontre féconde des juristes, praticiens et professeurs dans les facultés, avec de nouveaux philosophes qui s'inspiraient de leur méthode. Ça a été le cas à Harvard, où les fondateurs de la philosophie pragmatique, la grande philosophie américaine, William James, John Dewey, Charles Sanders Peirce, se sont inspirés, ont dialogué directement avec leurs collègues de la faculté de droit, dans un endroit qui s'appelait, mal nommé, qui s'appelait le Metaphysical Club, d'ailleurs, pour l'anecdote. Et ils se sont inspirés en particulier des réflexions du chef de file du mouvement réaliste américain, le grand juge à la Cour suprême, Oliver Wendell Holmes. À l'ULB aussi, Chaim Perelman, qui était philosophe, mais aussi juriste de formation, et le recteur Paul Fourier, qui était avocat, mais qui était aussi le titulaire du cours de droit naturel, ont rassemblé autour d'eux les plus grands praticiens et les plus grands professeurs de leur temps pour former ce qui est passé à la postérité sous le nom d'École de Bruxelles, qui a apporté beaucoup de choses, notamment dans le domaine de l'argumentation. C'est donc par un juste retour des choses que la conférence Perelman honore aujourd'hui en votre personne l'un des grands maîtres du pragmatisme juridique, en espérant que cette méthode pour laquelle vous avez tant fait, qui fait notre identité et notre renommée, est encore de beaux jours à la faculté et inspire de nouvelles initiatives, comme par exemple les cliniques. Et oui, Monsieur le Président, les juristes empruntent également leur vocabulaire et parfois leur concept au monde médical. Les cliniques qui poursuivent dans la même idée, mais font cette fois travailler les étudiants sous la direction de leurs professeurs et praticiens sur des dossiers réels, y compris devant la justice. Je passe à présent la parole au professeur Xavier Dieu, qui est un éminent représentant de la méthode pragmatique s'il en est, et qui conjugue les qualités à la fois de praticien et de théoricien du droit. Je le remercie particulièrement car il est directement à l'origine de cette réunion de ce soir.
Cher monsieur Van Hemmeslaag, dans l'introduction au Liber Amicorum, composée en votre honneur il y a plus de 10 ans, à l'occasion de l'entrée en vigueur de votre éméritat, Paul-Alain Fourier et moi, qui partagions à l'époque la charge, à très haut risque pour nous, de votre succession pour le cours des obligations, écrivions ce qui suit. Autocitation. Il n'est certes pas aisé de rendre compte en quelques pages, à vocation purement introductive, d'une œuvre aussi importante que celle du professeur Van Hemmeslaag, dont le retentissement sur la science juridique contemporaine et la jurisprudence aurait été exceptionnellement considérable. Nul ne trouvera excessif que l'on en mesure l'ampleur et l'influence à l'aune des grandes œuvres fondatrices du droit privé, sans limiter la comparaison à l'espace étriqué et en voie de décomposition, disions-nous, de l'ordre juridique belge. C'était au printemps 2000. Et nous poursuivions, je recite, « Le travail n'est d'ailleurs pas achevé et les années prochaines nous en promettent de substantiels prolongements. Le grand traité de droit des obligations demeure en particulier attendu. Ce qu'il nous faut évoquer ici, disions-nous encore, ce n'est donc pas un moment révolu de l'histoire récente de notre droit, mais une pensée animée d'un mouvement dont chacun pressent qu'il n'est pas près de son terme. » Fin de citation. Pour employer ici une terminologie propre à un principe, ou plus modestement à une idée pour laquelle il m'est arrivé d'éprouver quelque sympathie, le moins que l'on puisse dire et que vous avez confirmé la légitimité de nos anticipations. Le produit fini est là, et vous avez réussi le tour de force de mener à bien cet immense projet qui, pour d'autres, aurait été l'œuvre d'une vie, de concert tout à la fois avec d'autres activités scientifiques toujours aussi absorbantes, menées tambour battant, et avec une activité professionnelle toujours pareillement riche, elle aussi, qui vous a vu présent à la barre dans la plupart des grandes affaires de la dernière décennie, en droit pénal des affaires et en droit financier en particulier. De ce dernier point de vue, celui du métier d'avocat, auquel j'ai eu la chance immense d'être initié par vous, et par celui que nous appelions avec respect et affection Monsieur Van Rijn, me permettrez-vous de vous dire, avec un clin d'œil, que vous restez pour Paul Alain et pour moi, et pour bien d'autres d'ailleurs, le concurrent le plus redouté dans un marché du droit de plus en plus compétitif. Car vous n'êtes pas seulement un civiliste réputé, vous avez aussi dominé dans votre pratique, dans votre activité scientifique et dans vos enseignements, tous les aspects du droit commercial et plus généralement du droit économique, en ce compris le droit des sociétés, dans le prolongement des enseignements de vos maîtres, les professeurs Van Rijn et Nain. Et je ne résiste pas à cet égard au plaisir d'évoquer ici le souvenir d'un dîner de faculté, au cours duquel, pour souligner l'étendue de votre réussite dans cet autre domaine du droit, le droit commercial, le professeur Zondervan, retraçant l'histoire de la chaire de droit commercial à la faculté de droit de notre université, rappela avec humour qu'après avoir pris avec Jean Van Rijn le ton de la bonne société, puis avec Jacques Hennen, qui était aussi conseiller général de l'ex-général de banque, le ton du sermon sur la montagne du parc, le droit commercial était devenu, avec Pierre Van Hommeslag, tout à la fois une discipline sui generis, supérieure et lucrative. Cher Monsieur Van Hommeslag, c'est aujourd'hui votre jour, et je m'en voudrais d'être trop long après les mots d'accueil déjà très significatifs, dirais-je, du président de notre université, de la vice-doyenne de notre faculté et du directeur du centre Perelman de philosophie du droit. Je me bornerai donc à quelques remarques introductives. Que l'université et la faculté de droit aient souhaité s'associer spontanément à l'initiative que le centre Perelman a prise d'organiser la manifestation de ce soir n'a évidemment rien de très étonnant. Que l'on doive par contre au centre Perelman de philosophie du droit et à son directeur l'initiative de cette soirée pourrait par contre paraître moins naturel. En apparence, en effet, il y a peu en commun entre vos enseignements de droit positif, c'est-à-dire du droit tel qu'il est, et la philosophie du droit, dont on pourrait dire, en simplifiant certes grandement et par référence à de vieilles connaissances littéraires, qu'elle concerne le droit tel qu'il devrait être. Pareille observation reste toutefois à la surface des choses, car la philosophie du droit, en tant qu'elle comprend la théorie du droit, s'intéresse aussi à la logique juridique et aux méthodes de la science et de la pratique juridique, discipline portée au niveau que l'on sait par le regretté Chaim Perelman, dont Guy Archer, Michel Meyer et Benoît Friedman continuent à faire rayonner la pensée, en même temps d'ailleurs que la leur propre, dans notre université et à l'étranger. Cette dimension de la réalité juridique ne vous a bien entendu pas échappé, elle non plus, même si l'on ne s'attendait pas à ce que vous vous exprimiez aussi nettement sur ce sujet. Votre traité de droits des obligations, que vous présentez dans les termes d'un avant-propos avec une humilité qui n'a en l'espèce aucune raison d'être, est évidemment tout à fait remarquable, notamment par l'esprit de système qui le caractérise comme il caractérisait vos enseignements. Cela, évidemment, n'a pas été une surprise. Ce qui l'a été davantage, c'est par contre que, dans ce même avant-propos et ailleurs dans l'ouvrage, vous ayez cru devoir préciser et situer les composantes de votre méthode par rapport au grand courant de la pensée juridique moderne et contemporaine, justifiant ainsi, au niveau des principes, l'approche pluraliste et pragmatique qui se déploie ensuite dans les trois volumes du traité, faisant du droit des obligations une discipline dynamique et évolutive, même s'il s'agit d'une discipline dédiée aux concepts fondamentaux. Ainsi se trouve justifié, objectivement, dans quelque sorte, notre rencontre de ce soir, de même que le sujet dont vous allez nous entretenir dans un instant, je vous le promets, un périple dans le droit des obligations d'aujourd'hui et de demain, au-delà des seules frontières du droit civil, et tenant compte tout à la fois, premièrement, des évolutions technologiques qui influencent les techniques contractuelles en général et le droit de la preuve en particulier, des évolutions de la vie en société et des attentes nouvelles d'un corps social de plus en plus diversifié, mais aussi de plus en plus informé, sinon éduqué, je pense au droit de la consommation, et enfin, de l'internationalisation croissante des échanges économiques comme un aspect du phénomène de la globalisation qui défie les catégories classiques du droit contemporain. Il n'a pas fallu longtemps, on le devine, pour que nous nous accordions sur ces thèmes lorsque nous nous sommes rencontrés avec Benoît Friedman pour préparer cette manifestation, ouverte, comme vous l'avez expressément souhaité, à tous les publics, et en particulier aux étudiants qui représentent l'avenir. Avenir vers lequel vous aurez été, et vous restez en permanence tourné, tradition et actualité, se combinant suivant votre méthode dans un rapport de complémentarité plutôt que d'opposition. S'agissant des étudiants d'ailleurs, la légende, rappelée il y a un instant par le président Van Herwegem, la légende que vous acceptez avec l'humour dont vos proches savent qu'il est consubstantiel à votre approche du monde, se présente en effet comme une contrefaçon. Lorsqu'on la rapporte aux faits, qui attestent que pendant près de 50 ans, vous avez consacré, sans jamais demander de suppléance, 100% des 200% de votre temps à vos enseignements et à la charge des examens oraux qu'ils comportaient. Un rapide calcul fait ainsi apparaître que vous aurez au grand total interrogé entre 15 000 et 20 000 étudiants. Mais pour prolonger à ce propos sur le mode de l'humour, je ne résiste pas non plus au plaisir d'extraire du bel hommage que le professeur Lucien Simon vous a rendu à l'occasion du Liber Amicorum que j'évoquais tout à l'heure, ce pastiche d'un célèbre sonnet du poète José María de Heredia, dont M. Simon nous indique qu'il le découvrit dans un bloc-notes oublié par un étudiant à l'issue d'un examen. Nouvelle citation. L'aube d'un jour sinistre a blanchi les hauteurs. Le campus veille. Là-bas gronde et tonne Vanham. Dans le réseau serré des questions nous assomme, partout monte la plainte infinie des douleurs. Car malgré les parents, certificats menteurs, ou excuses valables dont il n'a cure en somme, le tueur des glaciers, l'effroyable surhomme, entre deux randonnées fait régner la terreur. Remplissant le campus d'un parfum de navrance, se sont évanouis tout projet de vacances, on entendait au loin gémir un étudiant. Et au fond du couloir, adossé contre une arche, le tueur contemplait, pensif et souriant, le lugubre cortège des ajournées en marche. C'est signé José María de Heredia, étudiant en première licence depuis 1863. Mais il est temps de vous entendre. Puis-je dès lors simplement dire, pour terminer sur une note un peu plus personnelle, que nous avons été, Benoît Friedman et moi, extrêmement touchés par l'enthousiasme que vous avez spontanément exprimé à l'idée que cette manifestation puisse avoir lieu. C'était par une soirée de l'automne naissante, à l'orée de la forêt de Soigne, et le grand Bordeaux qui accompagnait la conversation, et que nous avions voulu à la hauteur de votre réputation et de votre jugement d'œnologue averti, était surtout destiné ce soir-là à vous réitérer notre discrète mais fidèle amitié. Monsieur Van Homeslag, vous avez la parole.